Les communs de la nature à la connaissance avec Hervé Lecrosnier.
Cette idée d'un faisceau de droit a été mise au point par un juriste du début du siècle qui était très bien nommé puisqu'il s'appelait John Commons. Donc voilà. Donc ce juriste a dit, mais non, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec une ressource partagée. On n'a pas tous les droits ou aucun droit. Ce faisant, il n'était pas éloigné de choses très anciennes. Si on prend un exemple qui date dans la Bible, c'est donc un livre assez récent, mais bon, il est dit que tu ne laboureras pas jusqu'au bout de ton champ, tu ne grappilleras pas toute ta vigne, tu ne ramasseras pas tous les fruits de ton verger, tu en laisseras aux pauvres. Donc c'est le glanage. L'idée du glanage, c'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire du champ, mais qui va quand même avoir un droit d'usage sur ce qui reste après la récolte. Alors c'est excessivement important, hein, ça. Le glanage, par exemple, c'est la position des femmes en Inde dans les communautés paysannes. Le paysan plante, ramasse, et une fois qu'il a ramassé, la femme va dans le champ, elle retrouve les plantes qui restent sur la terre, parce que il y a des tas de plantes, notamment c'est reconnaître celles qui peuvent être mangées, celles qui sont médicinales. Elle ramasse les grains, la paille qui sert à nourrir ou à protéger, etc., etc. Et donc elle fait vivre l'économie villageoise. On a donc les hommes paysans qui font vivre le marché, qui ramènent l'argent, et les femmes qui font vivre l'économie villageoise. Du moins ça, c'était l'Inde traditionnelle. Depuis qu'il y a des OGM et des pesticides, l'homme se suicide en avalant les pesticides et la femme n'a plus de place, et donc elle est encore plus dominée. Donc l'importance de cette idée d'un faisceau de droits, je n'ai pas tous les droits ou aucun droit, mais j'en ai un certain nombre. On le retrouve dans les communs de la connaissance. C'est ce qu'on appelle les licences Creative Commons. Dans le droit général, quand on crée une œuvre, on en devient propriétaire. On a ce qu'on appelle sa propriété intellectuelle. Et donc, les autres n'ont aucun droit sur l'œuvre. Vous n'avez pas le droit de la prêter, de la faire circuler, de la reproduire, etc., etc. Ça peut être utile. Ça peut être utile, par exemple, vous êtes un auteur, il veut gagner de l'argent, ce qui est quand même, comme tout le monde, il gagne sa vie. Donc, il va dire, j'ai ma propriété, je la négocie avec un éditeur en échange d'argent sonnante et trébuchante. Ça a été une bonne idée au début du XVIIIe siècle, en 1710, quand en Angleterre, on a inventé le statut d'âne, qui était la première loi sur le droit d'auteur. Cette idée n'est plus tout à fait adéquate pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'il y a de plus en plus des amateurs qui créent des œuvres et qui préfèrent les voir diffusées, même si ça ne leur rapporte rien. Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour créer des œuvres. Par exemple, moi, j'étais enseignant à l'université de Caen. J'estime que quand je donne un cours, voilà, je suis déjà payé. J'ai aucune raison d'être payé une deuxième fois pour l'œuvre que j'ai créée. Donc, mes cours ont été filmés. Ils sont disponibles sur le web. Ils sont même disponibles de manière ouverte. C'est-à-dire les gens peuvent prendre, juste découper le petit morceau qui les intéresse et s'en resservir. Voilà, j'ai déjà été payé pour ça. Par contre, j'ai fait un livre. Bah, il est en vente. Ouais, c'est pareil, c'est pas tout ou blanc. C'est pas noir ou blanc, etc. Et je suis très content de toucher les droits d'auteur. J'ai dû toucher une centaine d'euros cette année, donc ça ira très très loin. Voilà, donc cette question du faisceau de droit a trouvé une application dans ce qu'on appelle les licences Creative Commons. Licence, c'est un contrat privé. Alors, ce qui est intéressant de ces licences Creative Commons, c'est qu'elles ont été inventées en détournant le droit d'auteur. Puisque je suis auteur, que donc j'ai tous les droits sur les œuvres que j'ai pu créer, alors je vais décider que j'offre des droits de partage. Je donne des droits à d'autres. Je les donne. Je les assume en partage. Ces droits peuvent être différents. Je peux dire à des gens, moi, mes cours, faites absolument ce que vous voulez. Par exemple, si j'écris un livre, je peux dire, ok, vous avez le droit de le prêter, de le faire circuler, mais vous n'avez pas le droit de changer mon nom, de mettre le vôtre, et puis de dire que vous l'avez fait, et puis de le vendre. Ça ne marche pas. Même de laisser mon nom et de le vendre, puisque, comme en plus, je suis éditeur maintenant, donc je n'ai pas envie. Donc voilà. Donc ça, il y a toute une gamme de licences qui permet en fait de concevoir une gamme des usages qui vont être faits. Et là, on s'aperçoit que la question des communs est avant tout la question de l'usage et non pas de la propriété. La question des communs naît en même temps que la propriété. Avant, il y avait des choses communes. Il y avait des choses communes, puisque je vous ai dit, c'est ce que nous avons en partage dès le départ. Mais ces choses communes n'étaient pas considérées comme des communs parce qu'il n'y avait pas besoin de les défendre, puisqu'il n'y avait pas de logique de propriété sur eux. Mais à partir du moment où le régime de propriété s'étend, il est super important de défendre un domaine public, un domaine commun. Domaine public, c'est ce qui va être ouvert à tous, et domaine commun, c'est ce qu'une communauté va prendre en charge pour mettre en œuvre. Voilà. Je pourrais continuer des heures, mais je préfère maintenant voir si vous avez vu le message général. Le message général, je peux le résumer en 4 points. Il y a des communs. À partir du moment où il y a une ressource en partage, ce n'est pas le bien commun en général. Moi, je me méfie toujours des gens qui manivent les grandes choses et qui ne sont pas capables de l'appliquer à leurs activités concrètes. Donc, c'est quand il y a une ressource. Cette ressource a besoin d'une communauté pour la mettre en œuvre, la maintenir, la protéger et assurer la gestion du partage. Cette communauté n'est pas une communauté de destin. Je suis né à tel endroit et donc je vais avoir une mission de protection d'une ressource. C'est une communauté de choix. Je choisis de m'investir dans tel ou tel commun pour garantir le partage d'une ressource. Donc il y a une communauté. Cette communauté a besoin de règles de gouvernance. Donc il y a une forme institutionnelle. Les communs qui sont basés sur les grands discours, je ne sais pas si vous avez repéré, mais même le président de notre République commune utilise le terme de bien commun à tout bout de champ. Donc pour moi, ça ne doit pas être des discours. Ça ne peut être que des choses qui se mettent en œuvre avec les gens concernés s'organisant dans une communauté se fixant entre eux des règles de gouvernance. C'est enfin un faisceau de droits qui définit quels sont les droits d'usage à l'intérieur de la communauté. Cas d'un réseau d'irrigation, ça ne me concerne pas, je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Soit à l'extérieur de la communauté, là par exemple, cas des licences Creative Commons qui donnent des droits à un lecteur ou à un rééditeur. Il y a juste une chose dont je n'ai pas parlé. Et je vais terminer là-dessus, c'est qui met en danger les ressources en partage? Ou plutôt, quelles sont les méthodes par lesquelles on met en danger les ressources en partage? Historiquement, dans l'Angleterre, à partir du 13e, 14e siècle jusqu'au 19e siècle, ça a été très très long, a eu lieu ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures. Le mouvement des enclosures, c'est à partir du moment où les landlords ont mis des clôtures autour des champs, disant maintenant ce champ, c'est moi qui le gère, alors qu'auparavant, il était ouvert aux usages communs. Les usages communs, c'est quoi? C'est pas forcément, attendez, les pauvres, ils n'ont pas des bêtes à mettre dans un pré. C'était aller ramasser la tourbe, les champignons, le miel, le bois pour chauffer, ou le bois un peu plus structuré pour construire ses cabanes, etc. C'était toute une série d'usages qui avait été enregistré dans la loi, cette loi qui s'appelle la Charte des libertés, qui date de 1218. Vous savez, c'est Robin des Bois. Dans le film Robin des Bois, ce combat entre le roi qui veut tout posséder, les barons qui veulent rester, avoir leur terre à eux, et le peuple qui est obligé de s'allier aux barons contre le roi, mais qui va défendre son droit d'utiliser les communs, donc droit d'usage de ces communs. Voilà. Donc ça, c'est la Charte des libertés. Mais ça ne suffit pas d'avoir une loi. Il faut des gens pour défendre la loi. Et comme il n'y avait personne pour défendre la loi, les landlords se sont étendus et la royauté a mis la main sur les terres qui étaient partagées. Donc, coincé entre l'État et la propriété privée, la partie commune, celle qui était utilisée en commun, a eu tendance à diminuer. On a appelé ça le mouvement des enclosures, qui était d'une excessive violence. C'est quand même à cause de cette violence que l'Angleterre a pu devenir la puissance maritime qu'elle était, c'est qu'il ne restait à ces gens plus rien d'autre que de s'engager dans la marine. Ils n'avaient plus de moyens de survie dans leur truc. Donc, dans le mouvement des communs, on a tendance à appeler enclosure tout ce qui va, en fait, empêcher l'usage du commun. Tout ce qui va détruire la capacité à construire du commun. Alors, selon les cas, ça peut être très différent. Il y a la privatisation, hein, la volonté de grandes entreprises de privatiser, mais il y a aussi des règles techniques. Par exemple, je peux aujourd'hui mettre des verrous à l'intérieur des objets numériques. On appelle ça des DRM, Digital Right Management. Donc, ils disent, si tu n'as pas la clé pour déverrouiller, tu ne peux pas t'en servir. Mais ça existe aussi en biologie. Ça s'appelle les GERTs. Les GERTs, c'est des verrous biologiques. Et il va falloir rajouter un deuxième produit au bon moment pour que les plantes puissent arriver à maturité, etc. etc. Donc, vous voyez, il y a toute une logique de mettre des verrous à l'intérieur des objets pour s'en assurer l'usage, si ce n'est la propriété. Donc, cette question des enclosures est très, très importante. Et il faut, en fait, pour chaque ressource partagée, pour chaque communauté considérée, pour chaque règle de gouvernance de la communauté et pour chaque faisceau de droit, définir quels sont les risques d'enclosure. Et vous savez bien que quand on a quelque chose en commun, c'est naturel. On n'y pense même pas. On se sert de ce qui nous est commun sans avoir à y penser. Et c'est au moment où on va nous le prendre qu'on se dit, nom de Dieu, mais c'est bien sûr. Il faut défendre ce qui est là en commun. C'est typiquement ce que nous sommes en train de vivre autour de ce grand commun qu'est le climat. C'est à partir du moment où la production de gaz à effet de serre a modifié très rapidement le climat que les gens se disent, mais attendez, nous avions ça en commun, il était à peu près tempéré, nous savions comment vivre dans les écosystèmes terrestres, et aujourd'hui ceci est gravement mis en danger, donc comment est-ce qu'on va pouvoir le prendre en compte? Et on verra peut-être dans la discussion, c'est à chaque fois quand il y a des formes d'enclosure justement, que les gens se rendent compte qu'ils ont des choses en commun et que c'est très important pour leur vie, leur activité, etc. Je m'arrête là pour l'introduction, j'espère avoir présenté les meilleurs aspects. Et puis...
Merci. Voilà, donc, on prend une première question. J'ai plus de voix, excusez-moi. Il faisait frais sur le parking ce matin.
Permettez que je rebondisse sur le climat. Le climat, c'est pas une enclosure qui a été prise pour nous en priver. Le climat, c'est l'externalisation par le capitalisme, les multinationales qui ont carburé aux énergies fossiles, qui se sont déversées dans le grand égout, et rapatriées et internalisées leurs profits. Je le vois pas, moi, comme une prise d'enclosure, voilà. Moi, j'ai été ouvrier agricole, je suis né un peu avant-guerre, et à Randon, dans l'Isère, papa et maman, qui étaient ouvriers agricoles, mon père en avait marre, bossait à la mine à Saint-Étienne, ma mère était handicapée, et on a vécu à Randon, on a vécu comment? 2 vaches, 25 chèvres, on produisait tout à l'écart du village, on avait en commun un étang où il y avait des carpes, qui avaient été faits pendant la guerre, c'était très bien géré par la communauté villageoise d'Arandon. C'est-à-dire qu'on pêchait en novembre, on pêchait, voilà, et on se répartissait le poisson, on ensemençait. On avait en commun le bois, il y avait des coupes municipales, des coupes communales de bois. On allait couper le bois avec mon père et on se chauffait exclusivement au bois. On avait avec nos chèvres des parcours libres, puisqu'on allait un peu partout, sauf ceux qui étaient propriétaires, qui avaient mis des piquets et qui disaient « il faut surtout pas aller là ». Et donc, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'habite maintenant au bord du lac d'Aigbelette. Qu'est-ce que je vois? Les politiques, les élus politiques, la grande catastrophe de ce pays, c'est les élus, vendent au privé des terrains sur lesquels les investisseurs, comme on dit, plantent des baraques hideuses en béton qui bouffent tout l'espace agraire sur lequel les pauvres jeunes du coin aurait pu faire des petits élevages de poulettes pour se faire un petit salaire à 800 euros ou des œufs bio qu'on ne trouve pas sauf les horribles bio industriels des œufs d'heure qui nourrissent toute la région Rhône-Alpes d'œufs dégueulasses mais bio, hein, batterie de 4500 poules, 20 ou 30 batteries, des camions qui partent tous les jours, l'horreur absolue mais bio. Bio à 90% hein, seulement. Eh bien voilà, est-ce qu'aujourd'hui la bataille c'est pas de se rebaccarer pour les communs en reprenant pas à pas toute la terre agricole périphérique à Lyon, toute la terre agricole périphérique à Valence, etc., mener des luttes pour que ça devienne comme à Moinsartou, et j'arrête là, ma question, c'est qu'à Moinsartou, ils ont racheté des hectares et des hectares, hein, je rappelle, là-bas, c'est 500 euros le mètre carré, hein, constructible. Ils sont en banlieue de Cannes, et aujourd'hui, ils font de la bouffe pour les cantines, lycées, deux collèges, quatre primaires, à 1,80 €. C'est le seul pays, 100% cantine bio, à 1,80 €, parce qu'ils ont fait du commun et qu'il y a une régie publique alimentaire. Ben, moi, je propose qu'il y ait aussi une régie publique énergétique comme à Montdidier. Je ne sais pas si vous connaissez dans la Somme. 4 éoliennes, 500 000 euros qui tombent dans les caisses. Mais là, on n'est pas dans du commun, ni à Moinsartou. Ni... On est dans du bien public énergétique alimentaire. Pour qu'il y ait du commun, et qu'est-ce que vous en pensez? Ma question, c'est, il faut la démocratie comme à Saillant où 300 personnes font leur PLU. C'est-à-dire, il faut que les gens s'approprient ce qui leur appartient, c'est-à-dire les terrains encore municipaux, et qu'ils décident ensemble leur affectation. Non, vous ne croyez pas? Et là, on a un communisme de base, au meilleur sens du terme, n'est-ce pas? Attention, hein. Voilà. Mais parmi les nuisances, il va y avoir l'État, et puis il va y avoir les investisseurs qui vont donner des primes aux élus, comme en Ardèche, un grand projet à 400 millions d'euros dans la vallée de Louvèze, où on achetait les élus avec 300 000 euros pour faire quoi ? Pour faire un CINT, un centre européen de nouvelles technologies. C'est-à-dire que maintenant, tout s'achète, tout se vend quand vous êtes milliardaire.
Merci.
Ce que vous venez de nous décrire, c'est très exactement les phénomènes modernes d'enclosure. Ouais. Donc c'est bien à partir du moment où on a des phénomènes modernes d'enclosure qu'on se rend compte que nous avions des choses en commun et qu'on décide de reconstruire des communautés actives, démocratiques, participantes, qui vont pouvoir reconstruire ce commun, c'est retrouver des ressources en partage. L'exemple que vous avez cité des lacs où il y a des pêcheries, c'est un des exemples traditionnels qui a été étudié par Elinor Ostrom. Pour rappel, quand même, Elinor Ostrom a été la première et la seule femme à avoir le Nobel d'économie. Enfin, le prix de la Banque de Suède qu'on appelle habituellement le Nobel d'économie. Donc, pour son travail sur les communs. Qu'est-ce qu'elle a étudié sur ces pêcheries? Ben justement, quelles sont les règles que se mettent en place les pêcheurs artisanaux pour garantir que la ressource va rester renouvelée, que le partage va être le plus équitable possible. Mais bon, il y en a qui pêchent mieux que d'autres. Moi, je sais que quand j'étais gamin, j'allais dans les étangs, mais je ne sais pas pourquoi je ne ramenais jamais rien alors que mes frangins, ils en avaient plein. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, donc on a là ce phénomène sur les pêcheries a souvent besoin d'institutionnalisation parce que s'il n'y a pas une institutionnalisation de la communauté pour défendre la pêcherie artisanale, se passe ce que vous avez décrit, c'est-à-dire les gros arrivent et raflent tout, avec la complicité de l'État, tout à fait d'accord. Si on regarde le littoral français, particulièrement en Méditerranée, ça existe, ça s'appelle les prud'homies. Et dans les prud'homies, c'est des groupes de pêcheurs littoraux, artisanaux, qui auto-organise, par exemple, la circulation des zones de pêche. On sait que les poissons, ils vont à peu près toujours au même endroit. S'il y en a un qui se dit « moi, je pêche toujours à cet endroit-là », forcément, il va récupérer tous les poissons et les autres n'en auront pas. Donc, il faut organiser la circulation. Tout ça, c'est des règles de fonctionnement interne que mettent en place les prud'homies. Donc, ce que vous avez décrit est exactement la question qui est posée. Après, vous avez cité des exemples de décisions municipales pour reconstruire des systèmes d'autonomie, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient alimentaires, etc. C'est bien. On ne va pas dire que c'est mal. D'accord, c'est bien. Comment en faire des communs? Il n'y a pas d'opposition de principe entre l'activité de service public et les communs. Si ce n'est, il y a commun à partir du moment où les gens concernés se mobilisent eux-mêmes. Voilà. Donc, comment on va transformer le domaine public en commun? C'est justement en faisant que les gens concernés se mobilisent et qu'ils aient cette logique dans leur mobilisation de l'ouverture et du partage le plus large possible, sachant qu'on ne peut pas toujours tout partager à tout moment. Il y a d'autres endroits où ce sont les gens qui créent des coopératives pour planter des éoliennes et récupérer comme ça l'énergie dans leur village, qui se font parfois en conflit d'ailleurs avec les municipalités. En général, la municipalité tombe et les gens qui ont fait le travail en commun, parce que justement ils savent organiser des communautés, finissent par rentrer à la mairie. Et donc il est logique, comme Assaillant dont vous avez parlé, que ces gens-là, quand ils sont honnêtes, essayent au maximum de ne pas être victimes de la pression qui pèse sur les élus du point de vue de ceux qui ont beaucoup de pouvoir et d'argent. Le moins possible être victime. Une des meilleures manières pour ne pas être victime de la pression, c'est de faire que tout soit transparent. Et que, de préférence, on n'ait pas les mêmes personnes aux responsabilités tout le temps, qu'il y ait justement une démocratie interne aux communautés multiples qui vont gérer les communs.
On va prendre une deuxième question.
Oui, bonjour. Vous définissez les communs à partir de 4 éléments, donc du coup ressources, communautés, gouvernance et faisceau de droit. Et j'ai pas très bien compris la différence entre les deux derniers, gouvernance et faisceau de droit. Et est-ce que ça serait possible de partir peut-être de votre exemple d'irrigation ou des lacs pour expliquer la différence entre ces deux notions ?
Gouvernance, c'est ce qui est en interne, c'est-à-dire les règles qui sont fixées à l'intérieur de la communauté pour garantir son aspect démocratique, pour garantir qu'elle va bien être là pour protéger la ressource. Et comme je disais, c'est pas évident, hein. C'est jamais évident. Si vous avez été membre d'association, vous vous apercevez que le président reste président à vie, hein. Il n'y a pas que les élus, hein. C'est dans l'espèce de notre nature. J'aime beaucoup la définition de Vincent Ostrom qui disait « Les communs, c'est une manière de faire quelque chose qui soit efficace et qui dure avec des individus qui sont imparfaits. » Voilà. Donc ça, c'est l'aspect gouvernance interne. Quelles sont les règles qu'on se fixe, la transparence sur les décisions, la capacité de remettre en cause les décisions, hein, Elinor Ostrom a défini par son analyse, un certain nombre de critères qui sont liés à cet aspect interne, qui est-ce qu'on peut facilement changer les règles ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des règles parfaites un jour, mais le lendemain, elles ne sont plus jamais parfaites. Enfin, comment on fait changer les règles pour les adapter ? Est-ce que c'est souple ou pas ? Est-ce que ce sont les gens concernés qui peuvent changer les règles sans avoir à faire la révolution interne à leur communauté, mais juste en les faisant évoluer, en discutant, en obtenant de nouveaux consensus ? Et puis, il y en a une troisième qui est interne comme ça. Attendez, changer les règles. Et la capacité à faire appliquer ces règles. Hein, ça, c'est un autre élément important. C'est-à-dire, si on fixe des règles, mais qu'il n'y a pas de sanctions contre ceux qui ne les appliquent pas, ça ne marchera pas. Et l'exemple des prud'homies dont je vous parlais tout à l'heure, il est effectivement dans la décision qui est prise par les gens de faire appliquer ces règles en interne. Le deuxième aspect, celui du faisceau de droit, concerne plus la relation entre la ressource partagée et ses usagers. C'est-à-dire, quels sont en fait les divers droits d'usage de quelqu'un qui n'est pas propriétaire d'une ressource, mais quand la ressource a été partagée. Donc je vous ai donné l'exemple du glanage, l'exemple des licences Creative Commons. Y a un exemple qui est encore plus radical, c'est l'exemple du logiciel libre, de Wikipédia ou de OpenStreetMap. C'est-à-dire là, les gens ont tous les droits. Les gens qui, aujourd'hui, vous voulez copier tout Wikipédia, vous avez le droit. Vous voulez changer le nom, vous dites c'est mon encyclopédie du siècle, vous avez le droit. Et vous pouvez la redistribuer au monde entier, et vous pouvez même la vendre. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tout simplement parce que les gens ne sont pas idiots, ils savent que c'est à Wikipédia que ça se développe, et que c'est là que c'est gratuit, que c'est ouvert, que c'est mis à jour, et ainsi de suite. Mais vous pouvez le faire, la licence vous l'autorise. Voilà, l'économie vous le ferait perdre. Mais pourquoi ? C'est l'idée que plus c'est libre et mieux c'est. Ça, c'est possible avec toutes les ressources qui sont additives. C'est-à-dire les ressources où, en fait, plus il y a de gens qui utilisent Wikipédia, qui corrigent Wikipédia, qui créent des nouvelles entrées dans Wikipédia, et plus Wikipédia est important et intéressant. Les cartes OpenStreetMap, vous verrez, ils sont là dans l'exposition. Il y a les gens d'OpenStreetMap, les gens de Wikimedia, etc. Donc plus il y a de gens qui vont écrire une carte OpenStreetMap, dire précisément, mais là il y a un chemin qui existe et qui n'a pas encore été repéré, là le nom de la rue a changé, là en fait maintenant il y a un nouveau bâtiment, avec des campagnes qui ont été menées. Par exemple, il y a eu une campagne menée pour indiquer tous les défibrillateurs publics. Super intéressant, ça veut dire que vous pouvez regarder OpenStreetMap et tout de suite savoir en cas de pépin où c'est qu'il y a un défibrillateur juste à côté. Les pompiers dans beaucoup de départements, les SDIS des pompiers, utilisent OpenStreetMap parce qu'ils peuvent rajouter l'information dont ils vont avoir besoin, à quel endroit il y a de l'eau, à quel endroit il y a, je ne sais pas, moi je ne suis pas pompier, hein, à quel endroit il y a des dangers, des choses à protéger, des routes barrées, tous ces éléments qui sont utiles à leur propre travail. Mais une fois qu'ils l'ont fait, c'est accessible et disponible à tout le monde. Voilà, donc cet aspect faisceau de droit, c'est plutôt la relation à l'extérieur, gouvernance, c'est la relation interne. Mais en toute bonne logique, il y a une cohérence. Chaque ressource a des règles de droit qui sont différentes, forcément, a des règles de fonctionnement qui sont différentes. J'ai terminé sur un exemple. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé à une crèche parentale ? Ouais. C'est un commun. Mais ce n'est pas un commun ouvert. C'est un commun qui concerne la communauté de ses parents qui vont s'auto-organiser pour qu'il y ait 5, 10, 15 enfants qui puissent être gardés et qui puissent donc permettre aux parents de vaquer à leurs activités, d'aller travailler, etc. Mais il y a des règles de fonctionnement. Il y a des règles internes, hein, qui vont être comment il y a les rotations. Et si les rotations ne marchent pas, ben on va dire à des parents, ben écoutez, je suis désolé, mais là, on ne peut pas continuer. Hein, donc, renforcement, enfin, capacité à faire appliquer les règles. Et puis, il y a des règles externes qui est, à 3 ans, le gamin va partir, qui va rentrer ? Quelles sont les règles de sélection, d'organisation, qui peut candidater, etc., etc. C'est-à-dire, comment cette communauté assure la maintenance, même quand on n'est plus directement acteur, mais quand on a laissé la place à d'autres.
Une autre question ?
Bonsoir. Par rapport au commun, il y a quand même une nouveauté qui me semble apparaître ces dernières années, c'est que le commun peut être irréversiblement détruit. Je pense, là on va enterrer peut-être des chaînes nucléaires pour 100 000 ans, c'est un commun cette terre. Pendant 100 000 ans, elle va être en danger. On veut implanter un supermarché, on va détruire des terres agricoles. On ne pourra jamais refaire d'agriculture sur des terres agricoles, même si elles étaient possédées par un propriétaire. Elles avaient quand même ce caractère bien commun, dans le sens où elles produisaient de la nourriture. À partir du moment où il y aura un parking dessus, c'est terminé. Ici, j'imagine qu'avant, il y avait des terres agricoles. Le parc des expos, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais d'agriculture dessus. Donc, à un moment, il faudrait quand même que l'organisation mondiale pense que le commun, il doit être utilisé, certes, par la communauté, mais qu'à un moment, il faut trouver des verrous pour ne pas qu'ils soient détruits irrémédiablement. Et est-ce qu'on y pense ? Est-ce qu'il y a des instances qui réfléchissent à ça ? Parce que sinon, on va finir par avoir une terre tout en béton et il n'y aura plus de commun, il n'y aura plus de vie, quoi. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais...
Bah, tout à fait. Il y a des tas d'instances qui y pensent et qui agissent, que ce soit des instances locales, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont bien pensé à ça et ils l'ont défendu et ils ont gagné. Et c'est bien. Et maintenant, il reste à transformer la ZAD en commun, c'est-à-dire comment tous ces gens qui sont venus, qui se sont mobilisés, qui ont eu envie de rester là, de devenir boulanger ou paysan, comment est-ce qu'ils vont pouvoir y rester ? Est-ce qu'on va faire comme au Larzac, un GFA, une propriété collective de la terre avec des droits d'usage ? Est-ce qu'on va investir des choses comme Terre de Liens ? Je ne sais pas si vous connaissez Terre de Liens. Hein, donc c'est une association, on leur verse un peu d'argent tous les ans, et puis finalement ça fait une soulte assez importante, et ils rachètent des terres agricoles justement pour les protéger, pour garantir qu'elles resteront des terres agricoles. Pas toujours. La ferme des Bouchons à côté de Rouen, ils ont perdu parce qu'il y avait Auchan, parce qu'il y avait la mairie de Rouen, parce qu'il y avait le conseil régional. Question de combat, question de bataille à la défense de ce qui va être partagé. Les structures légales ne suffisent pas toujours. Hein, donc voilà. Donc il faut continuer en fait des batailles permanentes pour que cela se mette en place. Donc c'est échelle locale. Et puis à l'échelle mondiale, il y a toute une série de questions qui sont posées, par exemple, même à la FAO, donc le la partie des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation, il y a des questions qui sont posées, par exemple, sur les semences. Est-ce qu'on va renforcer les droits de propriété sur les semences, ou est-ce qu'au contraire, on va donner une place plus importante aux paysans dans le choix des semences, mais surtout dans la reproductibilité de leurs semences, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir récupérer une partie de leur récolte pour replanter. Attention, les paysans, ils replantent jamais uniquement leur récolte. Hein, ils en vendent une partie, ils en rachètent une partie, ils refont un nouveau mélange de semences et qu'ils vont planter pour éviter en fait le dépérissement qui est la monoculture, le dépérissement de la monoculture. Donc ça, c'est des questions qui à l'échelle du monde sont absolument essentielles.
Je dis, un aéroport est-il un bien commun dans la mesure où il va servir à tout le monde?
Mais c'est pas,
c'est ça qui peut être opposable.
Oui, bien sûr, c'est un débat. C'est un débat. Mais dans le même temps, quel est l'intérêt général? En fait, pour moi, la question de l'intérêt général, c'est l'essence de la politique. C'est quoi l'intérêt général? Comment on le définit? Qui en fait partie? Aujourd'hui, c'est capté par les pouvoirs. Les pouvoirs disent l'intérêt général, c'est moi. Parce que je fais de la croissance, quand on est un pouvoir privé, ou parce que j'ai décidé d'aider ceux qui faisaient de la croissance, parce que je suis responsable d'État. OK. Mais la réalité, c'est que l'intérêt général, ça se discute. Le gros problème auquel on est confronté, c'est qu'en politique, on ne discute plus d'idées. C'est-à-dire qu'on ne discute plus de qu'est-ce que ça veut dire, l'intérêt général. À côté de ça, les communs, c'est plutôt, la réalisation par le faire. Je pars d'en bas d'un domaine, d'une ressource, et je me mobilise comme communauté pour faire vivre cette ressource. L'exemple d'une crèche parentale, c'est ça, c'est vraiment une ressource, c'est limité. Vous voyez ? Par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aidé ou participé à des distributions alimentaires avec les associations d'aide de distribution alimentaire aux plus pauvres, les Restos du Cœur, des choses comme ça? Bon, ça c'est vachement bien. Ça développe l'intérêt général. Mais ce n'est pas un commun. Ce n'est pas un commun parce que les gens concernés ne sont pas investis. Tout autre chose est ce qu'on appelle les disco-soupes. Il y en a qui connaissent ça, disco-soupes. Hein, c'est on ramasse ensemble les fruits en fin de marché, les légumes en fin de marché, et on fait ensemble une soupe qu'on va manger ensemble. Voilà, là, on est dans l'ordre du commun. Le commun, ce n'est pas le bien et le mal. C'est très bien. Moi, à chaque fois que je peux aider les gens qui distribuent dans la banque alimentaire, je le fais. Je trouve ça vraiment, c'est normal. Voilà. Si on raisonne en bien et mal, on n'avancera pas. Par contre, le commun, c'est toujours à partir du moment où les gens concernés vont être des acteurs de l'organisation. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vais à vous après.
Quelle est la différence entre une coopérative et un commun?
Aujourd'hui, il y a un grand débat entre les gens de l'ESS et les gens des communs pour dire, mais en fait, on parle de la même chose de manière différente. Voilà. Donc, c'est l'histoire qui est différente plus. Hein. Donc, je pense, pas fondamentalement. Il n'y a pas fondamentalement de différence. Si ce n'est que pour réaliser des communs économiques, c'est-à-dire des communs qui vont avoir des objets qui sont vendus, une coopérative est la meilleure solution. Alors, après, avec les diverses formes de coopératives, hein, y a des coopératives comme les SCIC qui rajoutent les acheteurs, les utilisateurs. Il y a d'autres coopératives qui sont beaucoup plus organisées. Et puis, il y a un problème souvent dans les coopératives entre les coopérateurs et les salariés de la coopérative qui ne sont pas coopérateurs. Donc, vous voyez, rien n'est simple. Rien n'est simple. C'est pas en soi qu'il y a une bonne méthode, c'est quelle est la dynamique qui fait que les gens concernés ont la main sur la ressource qu'ils vont partager. Alors, la coopérative a une structure juridique, hein, donc qui est reconnue par les puissances extérieures. Les communs, dans la majeure partie des cas, n'ont pas de structure juridique et donc une difficulté à être reconnue par les structures extérieures. Voilà. C'est une question de dynamique. Voilà. Après, est-ce que tout le monde peut devenir des coopératives? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Nous, on a créé une maison d'édition. C'est pas une coopérative puisqu'on n'a pas de salariés. Il y a plein de choses qui doivent être des associations. Il y a plein de. Je crois que la question des communs, c'est vraiment surtout ne pas se figer sur un modèle qui va être répétable en dehors de toutes les situations. Quand je disais dans mes quatre points que la ressource est essentielle, voilà, chaque ressource appelle des modes de raisonnement, de gouvernance, de choses comme ça particuliers. Elinor Ostrom, à chaque fois qu'on lui posait une question un peu piège, avait tendance à répondre, écoutez, chaque commun est un cas particulier, donc de quel commun parlons-nous ? Voilà.
Oui, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que je trouve que finalement les communs reposent essentiellement sur la communauté qu'ils défendent et peut perdurer finalement seulement en fonction de la capacité de cette communauté à le protéger, à le transmettre et à le faire vivre. Donc ça, c'est, je trouve que finalement on a une question d'échelle très importante, locale. On parlait des bassins où on gérait la faune, on parle aussi du climat, on parle de, enfin il y a des échelles très différentes, et il y a une question de temps aussi. Parce qu'aujourd'hui, on peut protéger un commun, il y a une communauté qui existe. Si elle n'a pas cette capacité à transmettre, le commun va disparaître parce qu'on ne l'aura pas protégé, parce qu'on n'aura pas su le transmettre aux générations suivantes. Ou parce que, ou tout simplement, parce qu'il n'y aura plus lieu, ce commun n'en sera plus un, puisqu'il ne sera plus nécessaire d'être commun. Donc ça, c'est ma première réflexion. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on ne peut quand même pas définir des communs fondamentaux comme on définit des droits fondamentaux, c'est-à-dire qui vont au-delà des lois, qui doivent être nécessairement protégés par l'humanité entière. Et là, je pense au climat, par exemple.
Excellente question. Je pense que vous avez totalement raison sur le fait qu'un commun, ça doit être une dynamique et que si la dynamique s'effondre, il n'y a plus de commun. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'ai découvert cette question des communs en rentrant sur Internet dans les années 90. Et là, il y avait tout un message qui disait « Hop, les documents numériques, tu peux les donner, les multiplier à l'infini comme les petits pains, tu peux les transmettre à toute vitesse via Internet, jamais il y aura de restrictions sur les documents numériques. » La réalité que vous connaissez maintenant, c'est qu'il y a plein de restrictions. Il y a les algorithmes de Facebook qui vous empêchent de voir tout ce que vous voudrez voir. Il y a les DRM sur les documents. Il y a le prix des documents numériques. Enfin, il y a les fake news. Enfin, il y a toute une série de destructions de cette chose qui était censée être indestructible. Parce qu'en fait, ce n'est pas le bien qui porte le commun, mais c'est la dynamique qui se crée autour de la ressource qui construit le commun. Le commun, alors il y a un excellent livre, un pavé de Dardot et Laval qui traite du commun en disant ben, c'est une forme politique instituante. C'est à partir du moment où les gens vont instituer des formes politiques autour des ressources. La question des droits fondamentaux et des biens communs fondamentaux, elle aussi est très importante. Comment dire ? En Italie, la définition des communs, c'est tout ce qui participe à la réalisation des droits fondamentaux. C'est la définition qui a été donnée par... voilà, j'ai oublié. Stefano Rodotà, hein, donc qui est décédé l'année dernière, et qui est un grand juriste des libertés démocratiques, et qui a fait une commission pour essayer d'intégrer cette notion de commun dans la constitution italienne. Vous voyez, c'est important. Hein et donc, qui est arrivé à cette définition, c'est ce qui va défendre les droits fondamentaux. Et peu de temps après cette commission, il y a eu le référendum sur l'eau en Italie qui posait la question, est-ce qu'on peut privatiser les ressources en eau ? Et immense majorité pour refuser cette enclosure sur ce commun qu'est l'eau, transformer l'eau en bien commun. Et la construction, par exemple, à Naples, il y a la mairie de Naples, qui est une des mairies les plus gauchistes d'Europe, là, a décidé qu'elle était protectrice des biens communs. Et pour la question de l'eau, a créé une structure qui s'appelle Acqua Beni Comuni, qui va intégrer la population dans la gestion de l'eau. C'est-à-dire, il y a l'aspect technique dans la gestion de l'eau. Il y a des ingénieurs qui savent faire, il y a des ouvriers qui savent poser les tuyaux, etc. etc. Et puis, il y a cette gestion par la population qui va vérifier que les prix sont adéquats, que la ressource est protégée, et qui va donc faire de l'éducation populaire. C'est un terme qu'on n'a pas encore utilisé, mais ça ne me semble pas très loin de la question des communs. Hein. Moi, je viens de l'éducation populaire, donc j'ai découvert les communs comme étant une poursuite de cette réflexion-là. Donc, comment on va former les gens à économiser l'eau, à l'utiliser à bon escient, à la protéger, et etc., etc. Donc, on voit bien que la réalisation des droits fondamentaux implique, en fait, de définir des ressources comme étant des communes. Après, c'est pas évident, parce que si on trouve pas la communauté qui se mobilise, tôt ou tard, on va soit confier à l'État et des fonctionnaires, soit le confier au privé. C'est le problème qu'à Naples aujourd'hui, c'est que dans Acqua Beni Comune, il n'y a pas eu assez de mobilisation à la base, et donc il se retrouve à avoir la municipalité qui est obligée de faire plus que ce qu'elle voudrait faire, par manque de la dynamique politique.
Je voulais juste vous féliciter pour vos explications. Je lui laisse
le micro. Merci. Alors, ma banque est le Crédit Coopératif. J'ai quitté le Crédit Agricole pour des raisons éthiques. Dernièrement, j'ai lu des informations comme quoi la NEF, qui a des relations assez proches avec le Crédit Coopératif, avait peut-être des placements plus éthiques. Je n'ai pas eu le temps de fouiller la question, mais ça m'a interrogé. Il me semblait qu'à la base, le Crédit Coopératif était une émanation, plus ou moins, de la NEF. Et là, je ne comprends plus. Je ne sais pas.
Objectivement, c'est le contraire. La NEF n'étant pas entièrement une banque, s'appuie sur le Crédit Coopératif. La finance éthique, ça s'appelle un oxymore. Hein ? C'est-à-dire, c'est deux termes contraires qu'on met côte à côte. C'est comme la lumière noire, quoi. La finance éthique, et en même temps, il faut bien qu'on développe ce qui serait le plus éthique parmi les modèles financiers. D'où effectivement une structure comme la NEF, d'autres comme les Cigales, d'autres comme Terre de Liens. Terre de Liens, c'est une fondation où ils capent de l'argent, ils ont une soulte, ils achètent des terres et ils installent dessus des paysans. Hein. Donc tout ça, on est dans cet ordre où nous participons de la construction d'un truc que nous ne gérons pas. Voilà, donc c'est le rôle de la finance. Il y a un autre aspect important dans la question des communs, c'est quelle est la relation entre les communs et les monnaies locales. Hein, ça, c'est vraiment un grand débat qu'il y a dans le mouvement des communs, qui est quelle est la place de ces monnaies locales, surtout si elles sont fongibles, c'est-à-dire si vous ne les utilisez pas, elles se perdent, et affectées. Comment est-ce qu'on peut affecter une monnaie ? Exemple typique, nous en discussions autour d'un droit fondamental qui est les droits culturels, le droit de l'accès à la culture. Droit fondamental, donc comment on va construire un commun de la culture ? Alors il y a des gens qui le font, Wikipédia, les logiciels libres, OpenStreetMap, les profs de fac qui laissent leurs cours en libre accès, on appelle ça les ressources éducatives libres. Bon, il y a tous ces gens qui le font à la base, mais ça serait important aussi qu'il y ait des décisions publiques qui soient faites. Alors, il y a une décision qui a été prise de donner un chèque de 500 euros à tout jeune de je ne sais plus quel âge pour acheter des biens culturels. Ça ne construit pas un commun, ça. Ça va servir à faire circuler l'héroïne dans les quartiers. Donc, c'est plus comment est-ce qu'on pourrait imaginer une monnaie affectée qui serait utilisée que pour l'achat de biens culturels, hein, d'objets culturels, donc des places de théâtre, de cinéma ou des livres, et qui donc serait déduite, donc elle serait quelque part affectée que à ça, et on pourrait éviter les démobilisations, et en même temps, ça mobiliserait les acteurs de la culture qui feraient une réduction spéciale quand c'est payé avec cette monnaie-là, etc. Enfin, tous les exemples qu'on a pu tirer des monnaies locales alimentaires qui servaient qui remplacent les bons alimentaires, on est quand même beaucoup plus digne, enfin, on est moins stigmatisé quand on paye avec une monnaie locale qu'avec des bons alimentaires, voilà. Donc c'est...
Bon, je me sens coupable, je suis déjà intervenu, mais si vous permettez, est-ce qu'on pourrait avoir une discussion aussi un petit peu en échange circulaire entre nous, pour ne pas seulement discuter, comment dire, hors sol. Nous sommes en face d'un, ce qu'on peut appeler une catastrophe climatique, c'est-à-dire un système d'emballement en boule de neige. Bon, tel truc fait fondre tel truc, il fait fondre en accéléré tel autre truc. Bon, bref, tout le monde comprend qu'il fera 55 degrés sur Lyon à partir des années 50, National Geographic. 55 degrés en juin et septembre, les Lyonnais, ils meurent. Tout le monde comprend bien qu'un enfant sur 60 naît autiste en France. Donc il y a un empoisonnement chimique général. Pas la peine de se faire un dessin. Nous sommes une femme sur deux à mourir du cancer et un homme sur deux. Voilà. Devant cette urgence multiforme, dont une des pires, ce sera l'éclatement de la bulle qui vient, c'est-à-dire qu'on aura 150 euros par semaine pour se nourrir, mais peut-être pas pour faire le reste. Et devant ce qu'on appelle les collapses, c'est-à-dire il y a un truc qui lâche. Par exemple, il y a une centrale qui pète dans la vallée du Rhône, Tricastin, par exemple, la plus grave, et Lyon n'a plus rien à bouffer en 3 jours. Bon, ou le barrage de Voglan qui lâche au-dessus de Lyon, et il y a 11 mètres d'eau. Ça, c'est tout à fait possible. C'est même plus que probable, pas pour le barrage de Voglan, mais pour le nucléaire, ça devient de plus en plus probable qu'en France, on risque la catastrophe. Pour le climat, je ne vous fais pas un dessin. Pour la biodiversité, on a 400 millions d'oiseaux qui ont disparu en Europe en l'espace de 25 ans. Bon, on y est. Question. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une discussion de fond? Qu'est-ce qu'on va faire pour bouffer à Lyon? Qu'est-ce qu'on va faire pour se chauffer à Lyon quand ça va péter dans les centrales? 8 millions de foyers se chauffent avec des radiateurs. Voilà, je voudrais qu'on ait une discussion sur comment le commun peut être, alors c'est peut-être mauvais, ma question elle n'est pas universitaire, voyez d'où je viens, l'ouvrier agricole paumé dans sa campagne, comment devenu quelque part universitaire, comment on va essayer de survivre en contexte de collapse par le commun.
Merci, c'est vaste débat.
Non, je crois que, l'échec de Copenhague renvoie à l'incapacité qu'il y a eu à ce moment-là à mobiliser la société civile, parce que l'idée, c'était c'est la réunion de la dernière chance. Le message qu'on a porté à, je ne sais pas, vous rappelez Copenhague, c'est il y a 5 ans, un truc comme ça, c'est une COP sur le climat.
2009, je crois.
2009, bon. Il y a plus longtemps que ça, le temps passe. Oh, putain, on veut toujours rester jeune, c'est incroyable. Donc à Copenhague, le message c'était c'est la réunion de la dernière chance. Ça mobilise pas les gens, personne se mobilise pour la fin du monde. Donc la question des communs, elle est plutôt de prendre en compte tout ce que vous dites, 100% raison, mais de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant ici, à l'endroit où on vit et comment on le protège. Alors, par exemple, c'est des choses comme comment on développe l'agriculture urbaine, comment on refait de la terre agricole, même là où il n'y en a plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire comment on refait des bacs, on utilise les ronds-points. Et ce qu'on appelle les incroyables comestibles sont des gens qui s'auto-organisent pour réutiliser tout espace en friche pour y planter des choses qui se mangent et qui laissent tout le monde venir le chercher. C'est-à-dire, je plante pas pour moi, c'est pas comme les jardins ouvriers de l'époque précédente, c'est je plante parce que c'est une nécessité collective, c'est un droit fondamental, et je laisse ceux qui en ont besoin venir s'en servir. Voilà. Donc on a là toute une dynamique, c'est ça la dynamique des communs. C'est qu'est-ce que je vais faire, ici et maintenant, ensemble, pour réorganiser le monde à partir de maintenant. C'est aussi... Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse des débats majeurs. C'est ce que Elinor Ostrom appelle les éléments emboîtés. C'est-à-dire, il n'y a pas une solution sur la question du climat qui dépendrait de l'ONU et d'une décision et même de l'application par l'ONU de certaines règles. Il y a des règles à tout niveau qui partent des individus qui prennent conscience d'un certain nombre de choses inutiles, qui avancent dans leur propre, à leur rythme. Qui avancent à leur rythme, parce que si on commence à imposer aux gens, ça ne marchera pas. Il y a des villes en transition qui vont essayer de devenir des villes qui à énergie positive, par exemple. Et puis il y a des décisions d'État, donc des lois pour lesquelles il faut se battre, parce que les autres, ils se battent. On nous raconte là qu'il n'y a plus de lutte, qu'il n'y a plus d'histoire, qu'il n'y a plus de lutte de classe. Le seul qui est intelligent là-dessus, c'est le milliardaire Warren Buffett. Il a dit la lutte de classe, bien sûr qu'elle existe, on l'a gagnée. C'est tout. Voilà. Alors, si on ne se bat pas pour avoir des lois, ben les autres, ils se battent. Jour après jour, il y a des lobbyistes qui vont défendre n'importe quoi devant les politiques avec des arguments. Alors, il y a des arguments de dessous de table, ça on s'en aperçoit régulièrement, mais il y a aussi, ils ont les arguments de leur métier. Ils disent, nous sommes les plus compétents, nous allons faire, etc. etc. Voilà. Non. Et comment la société, pas à pas, se défend et fait des projets, les réalise. Voilà.
Il y a un truc qui me préoccupe un petit peu dans ce que vous avez dit. Ça me semble évident, comme vous le présentez, que pour avoir du commun, ça prend de la mobilisation, de l'implication des gens concernés. Sinon, bon, ce que vous dites, c'est sinon, soit c'est, on le relègue à des fonctionnaires ou soit ça se fait privatiser. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça me paraît insurmontable. Si on doit se mobiliser pour tout ce qui nous concerne, sur tous les aspects, ça semble improbable. Il y a la finance, il y a la bouffe, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le climat, les vêtements. Je veux dire, on peut pas se mobiliser sur tout le temps. Là. Et face à ça, il y a soit les fonctionnaires ou soit les privés qui ont des machines bien huilées, bien organisées. Est-ce qu'on peut envisager les surmonter comme ça?
Vous avez pleinement raison. Hein. Moi, j'appelle pas à devenir des moines soldats. Hein. On choisit les communautés dans lesquelles on va s'investir. Et comme nous ne choisissons pas toutes les mêmes communautés, que nous n'avons pas tous les mêmes centres d'intérêt, finalement se reconstitue une société civile appuyée sur les communs. Qui va faire pression sur les fonctionnaires? Attendez, moi je suis fonctionnaire, enfin je l'étais, j'ai mes cours justement, j'ai dit, mes cours ils sont payés déjà, je les donne, etc. Le débat que j'ai eu avec mes collègues, ah ouais, mais les autres ils vont voler tes cours, ils vont s'en servir à ta place. Et puis il y a un danger parce que bientôt on dira aux étudiants, vous avez qu'à regarder les vidéos de Le Cronier, et puis oui, et alors, c'est pas grave. Et puis les gens ils peuvent voler, au contraire, je suis prof, donc ça va, plus je dis et plus les gens reprennent, plus je suis content moi. Enfin, c'est mon métier ça. Donc voilà, donc que chacun aille à sa place. Après, il y a forcément des choses qu'on va déléguer. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Acqua Beni Comuni à Naples. Attendez, c'est pas tous les individus qui vont se mobiliser pour aller vérifier que les robinets fuient pas, etc. C'est bien des gens dont ça va être le métier, qui d'ailleurs quand le robinet fuit sont capables de le réparer. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Je vois votre accent, vous venez du Québec. Il y a eu lors du printemps d'érable, alors pareil, je n'ai pas vieilli, donc c'était il y a quelques années, mais pas longtemps, cette idée des communs qui est énormément montée. Et le commun qui était défendu par les étudiants qui manifestaient, c'était celui de l'éducation. Et là, c'est un vrai débat. C'est-à-dire, est-ce que l'éducation doit être un service public ou un commun? Moi, j'ai tendance à penser que ça doit être un service public parce qu'il assure l'égalité. Alors que certaines parties d'éducation sont des communs. Par exemple, les écoles d'Iwan en Bretagne ou les écoles qu'il y a au Pays Basque. C'est des gens comme la crèche parentale dont je parlais tout à l'heure, des gens qui s'organisent pour que leurs enfants aient accès à des... C'est des écoles privées, d'une manière ou d'une autre, mais qui fonctionnent sous un mode coopératif, sous un mode d'ouverture, parce que derrière, il y a une autre volonté qui dépasse la langue de leur région, etc., etc. Donc voilà. Donc je pense que l'éducation, c'est un droit fondamental et on doit demander à l'État d'assurer ce droit fondamental. Après, il faut que ça devienne un commun au sens où il faut que les gens s'en occupent. Parce que si les gens ne font pas une pression permanente sur le système d'enseignement, c'est-à-dire pas sur les enseignants, pas sur l'État in abstracto, mais sur le système d'enseignement, alors on n'avancera pas, puisqu'on va rester dans un système avec des disciplines séparées, alors que toutes les questions que vous avez posées portent justement sur le transdisciplinaire.
Vous rajoutez quelque chose? S'il y a d'autres questions, on prend les priorités, ceux qui n'ont jamais parlé, mais pour l'instant, si vous voulez compléter. Voilà, oui, c'est ça.
On voit que vous êtes un universitaire, c'est très sympa, hein. Vous dites qu'il ne faut pas faire pression sur les enseignants. Or, notre système d'enseignement est, dans les pays occidentaux, le plus inégalitaire, mais il ne faut pas faire pression. Or, les enseignants doivent bien y contribuer un petit peu quand même, un tout petit peu, hein, je dis bien. Puisqu'ils sont de la classe moyenne, ils travaillent pour la classe moyenne et reproduisent l'échec scolaire. Bon. Moi, je fais une proposition. Est-ce que ça tiendrait du bien commun de dire que, par exemple, dans le cadre d'une bagarre politique nationale. Il faut absolument, effectivement, qu'on se bagarre pour le dépérissement de l'État répressif, gna gna gna. Et qu'on se bagarre aussi localement. Je verrais très bien une école, un collège, locaux, même un lycée, dans les territoires et dans les quartiers, où les enfants apprendraient en gérant des biens communs. C'est violent ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les enfants apprendraient par recherche-action sur des projets de développement local, écologique, non violent, non climaticide, non carboné, où ils réapprendraient ben, justement ce qu'on dit là. Moi, je gère un jardin pédagogique, par exemple. Puis aussi, j'essaye de lancer un grand jardin sur des hectares d'HLM. Ça, ce sera un bien commun. Sauf toute la crétinerie des élus et de la petite intelligentsia qui dirige la France s'y oppose bec et ongle, parce que c'est un moyen d'auto-organisation populaire où une fois que les gens auront un peu plus à bouffer et un peu plus à se nourrir, un peu plus à discuter entre eux, ils vont devenir une force colossale qui va conquérir la mairie et va leur faire exploser leur système. Comme Notre-Dame-des-Landes. Donc j'aimerais bien qu'on discute. Est-ce qu'un système scolaire pourrait pas être pensé non pas comme système d'État, qui à mon avis est en rien, même pas un service public, mais comme un système auto, un système de bien commun local, où le savoir soit produit, partagé entre les enfants, les adolescents, les adultes, les élus, enfin toutes les forces, les assos, les entreprises, les micro-entreprises qui développent le territoire.
Merci.
Je pense que vous êtes, enfin, excusez-moi de vous le dire comme ça, vous êtes négatif. Et ça se fait beaucoup d'ailleurs. Un des prochains livres qu'on va publier dans ma maison d'édition, c'est fait par deux documentalistes de l'Académie de Toulouse qui ont comme objectif de dire comment est-ce qu'on apprend les communs à l'école. Hein, donc il y a une jeune institutrice de Savoie qui a fait du buzz parce qu'elle prend avec des élèves de CM2 et elle leur apprend à démasquer les fake news sur Internet. Donc voilà, donc c'est cette idée qu'on va faire de ce que les Américains appellent un très beau terme, empowerment, redonner du pouvoir à, qui est le métier de tout éducateur, tout pédagogue. Donc ça existe. Et ce qui est l'intérêt des communs, c'est l'approche par généralisons ce qui existe, mobilisons autour des exemples qui existent. Dans les quartiers, si vous allez à Brest, dans presque tous les quartiers, parce qu'il y a eu un accord avec Michel Briand, qui était élu à la mairie de Brest, et qui a mené un travail sur les communs, nous appartenons à la même association qui s'appelle VECAM, donc j'en suis content, et Michel a réussi à faire que dans tous les quartiers, il y a des incroyables comestibles, des jardins partagés, des soupes collectives, des partages d'idées et de recettes. Enfin, tous ces trucs-là ont été mis en place dans les quartiers. Donc, ça existe. Ce qui est important, c'est de généraliser ce qui existe. Beaucoup plus que de vouloir recommencer à partir d'en haut. C'est partir d'en bas et généraliser ce qui existe. Je dois dire que sur les exemples que vous avez tissés, ça marche pas mal. Par contre, là où une chose serait grave, et c'est pas nous qui le portons, mais c'est plutôt notre ministre de l'Éducation, c'est quand on va en fait arrêter avec l'idée qu'on a un programme qui est le même pour tous les élèves et qu'on va avoir des programmes qui vont être définis, des universités qui vont choisir des filières en fonction des embauches locales. Là, ça devient quand même assez dangereux pour les capacités d'autonomie, justement, des jeunes que l'on va former.
Bonsoir. Je voudrais revenir sur les trois exemples que vous avez donnés. Le premier, donc les supports de cours ou des supports de connaissances, les supports de cours ou des supports de connaissances que vous laissez à d'autres personnes la liberté de diffuser, à d'autres intéressés. Bien sûr, ce sont des personnes intéressées par ce format qui vont se rapprocher, évidemment. Deuxième exemple, la crèche où les parents sont acteurs. Chacun de ces parents, de ces acteurs, ont un intérêt au bon fonctionnement du commun. Troisième cas, si j'ai bien compris, l'exemple où on cultive, où on produit des plantes, enfin, de quoi manger, et on peut laisser d'autres personnes en profiter. Dans ces trois exemples-là, ce qui m'amène à ma question, est-ce que le commun, au sens tel que vous le définissez, peut être appliquée à tout type d'acteur ou d'interlocuteur. Parce que j'imagine que dans la crèche, les parents ont un intérêt au bon fonctionnement. Pour votre cas, vous laissez diffuser l'information des cours. Certes, vous ne voulez pas de retour financier, mais finalement, il n'y a pas de conséquences. Mais dans le dernier cas, est-ce que le fait de laisser à disposition de manière gracieuse et gratuite ou tout ce que vous voulez de bonne volonté, d'altruisme à d'autres personnes qui viennent en tirer profit, comment peut-on être sûr, enfin je veux dire pas sûr, mais comment peut-on se garantir ou se mettre une certaine limite à une utilisation enfin, je pense que vous comprenez
ce qu'on appelle le passager clandestin. Celui qui ne va pas participer à la communauté, mais voilà, qui va en tirer les fruits.
Je ne voulais pas rentrer dans de tels mots pour ne pas paraître négatif, mais
non, c'est là l'objet de la question. Hein. Voilà. Ça existe.
Alors, comment faire et est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Ça, je pense qu'il n'y a pas de solution univoque, décidée une bonne fois pour toutes. Et c'est là l'intérêt des communs, c'est que c'est une école de la démocratie. Ce n'est pas défini par avance. C'est les gens vont trouver des solutions, des arrangements institutionnels. Si je vous donnais un autre exemple... que je trouve très intéressant, c'est celui des marais de Guérande. Vous utilisez tous du sel de Guérande, hein, très bon. Donc c'est des marais. Alors les marais, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui préexiste. C'est des lopins définis avec des mottes d'argile, enfin des espèces de haies d'argile, dans lequel il y a tout un circuit de circulation de l'eau qui permet de remplir les parcelles. Et le soleil fait son effet, et après le paludier ramasse le sel. Ces parcelles sont privées. Le sel qui est ramassé est privé, hein, donc par celui qui le ramasse. Par contre, le marais de Guérande est un commun. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas. C'est ça qui est important. J'aime bien la définition des communs par Valérie Peugeot. Elle dit que c'est une utopie pragmatique. Voilà. Et donc là, on a du privé. Mais en même temps, s'il n'y a pas un entretien de l'argile autour des mottes d'argile, s'il n'y a pas un entretien de la circulation de l'eau, donc s'il n'y a pas une négociation collective, quelque chose qui fait que chacun possède sa parcelle privée, mais en réalité, il travaille collectivement à maintenir le commun d'ensemble qui s'appelle le marais de Guérande. Après, arrivent des événements. L'événement en question, c'est... L'échouage du... comment il s'appelle ce bateau qui s'est échoué à côté de Saint-Nazaire, là?
Il y a eu le Torrey Canyon, mais il y a eu...
Non, le Torrey Canyon, c'était pas celui-là. C'était le dernier en date, là. L'Erika, voilà. C'est l'Erika.
L'Erika.
Donc, l'Erika arrive, et donc, la nappe de pétrole est à l'endroit où on peut faire rentrer l'eau de mer dans le marais de Guérande. Et là, vous avez un vrai débat qui commence. Un débat qui ressemble aux questions posées monsieur tout à l'heure. Est-ce qu'on fait une année blanche? C'est-à-dire, est-ce que tous les propriétaires privés qui ont tous besoin d'argent disent non, on ne fait pas rentrer l'eau cette année-là? Ou est-ce que, parce que sinon on va dégrader en fait la marque Marie de Guérande et donc on va avoir des conséquences en chaîne? Ou est-ce que ils se réunissent, ils discutent et ils décident majoritairement de ne pas laisser rentrer l'eau, de dire on fait une année blanche. C'est une décision douloureuse, hein, il faut bien le comprendre. Quels sont les systèmes après qui vont faire une péréquation d'argent? Il y a une coopérative de vente du sel à Guérande, comment elle va intervenir, etc., etc. Mais ça ne suffit pas de le décider, parce qu'il suffit qu'une personne aille à l'entrée de la mer, ouvre les vannes pour que ce soit foutu pour tout le monde. Donc ils organisent enforcement, la capacité à appliquer les règles qu'on décide collectivement. Ils ont resté pendant toute la période d'entrée de l'eau, toutes les nuits, les paludiers allaient à l'endroit pour protéger en fait le commun qu'est le marais et non pas l'activité privée de chaque personne. Voilà, ça c'est un exemple important. Accessoirement, ils ont gagné beaucoup plus grâce au procès qu'ils ont fait à Total que ce qui aurait rapporté une année. Mais ça, ils ne le savaient pas au moment où ils ont pris la décision. Ils ne l'ont su que 5 ou 6 ans après. Voilà. Donc ça montre ce caractère très ambigu des communs. Je vous ai dit au début, Internet, c'est un commun. Et pourtant, l'ordinateur, il est à moi. Le serveur, il appartient au Monde, à Libération, à Facebook, à tout ça. Le réseau, il appartient à Orange, à Free, à SFR. C'est que des choses privées. Et je peux me permettre de dire, l'Internet, c'est un commun. Pourquoi ? Parce que ce qui est un commun, c'est la glue, c'est les logiciels, les protocoles, les méthodes de travail qui font que tous ces systèmes privés fonctionnent ensemble, quoi qu'il arrive. Donc c'est l'enjeu de la normalisation. Et c'est un commun parce que cette normalisation n'est pas décidée ni par un État ou une réunion internationale, ni par les acteurs privés eux-mêmes, quoique de plus en plus, hein, ils se bagarrent pour décider de plus en plus, mais par les ingénieurs qui ont construit le commun, c'est-à-dire ceux qui ont construit la partie des protocoles, des normes et des choses comme ça, qui font fonctionner, qui servent de glue pour faire fonctionner ensemble tout cet Internet. Voilà. Donc c'est, pour moi, les communs, c'est surtout ne jamais les voir de manière rigide, figée, organisée, mais de les voir dans la dynamique. Quelle est la dynamique instituante, c'est-à-dire celle qui va renforcer les acteurs? Après, il y a des choses qui échoueront, puis il y en a qui survivront. Voilà. Ça serait trop simple si on avait une méthode pour toujours gagner.
On prend la dernière question.
Je voulais poser une question justement par rapport à cette notion de commun par rapport à l'évolution numérique. Il y a eu la question des licences Creative Commons qui ont bousculé la perception des communs justement en faisant glisser la perception sur la propriété vers l'usage. Et j'ai le sentiment que, alors je voulais avoir votre avis là-dessus, sur le fait que le numérique transforme aussi la notion de communauté. Et là, on en vient à l'idée d'agir globalement, fortement. On n'a pas, on ne croit pas à une population mondiale qui va se soulever contre les puissants de ce monde. Enfin, on va dire les plus riches, pas forcément les puissants. La question de la communauté d'intérêt par le biais des réseaux sociaux, tout ça, transforme le... On n'est plus sur un échelon local, on est sur un échelon diffus, on est sur un échelon sur des gens qui sont aussi informés, qui sont aussi parfois spécialisés, et donc qui peuvent s'organiser pour avoir une efficacité maximum pour défendre un commun à une échelle mondiale. Il faut pas... on n'a pas besoin pour agir de tout le monde, finalement. Il faut une partie de personnes bien organisées qui peuvent être suivis aussi par les autres.
Vous avez tout à fait raison. Si ce n'est que il faut bien penser qu'en fait, nous ne vivons pas uniquement dans le cyberespace. Nous avons les pieds sur terre et la tête dans le cyberespace. Et qu'en permanence, nous devons vivre avec ces deux écosystèmes. Et que, quelque part, le numérique nous sert d'infrastructure pour réorganiser nos communautés qui peuvent être nous disperser et qui peut être local. Attention, il sert aussi à réorganiser la communauté de ceux qui sont contre les communs. Ce qui est le plus actif aujourd'hui en France sur Internet, c'est la fachosphère. C'est loin d'être les communs. D'accord ? Vous pouvez faire n'importe quoi, vous avez les trolls qui vous tombent dessus. Hein, donc on est dans une situation où c'est pas évident du tout. La deuxième chose la plus active, c'est les grandes entreprises, les Google, Amazon, etc., qui captent nos données personnelles. Donc comment on réinverse, c'est-à-dire comment on mène la construction de commun à l'intérieur de l'Internet, qui lui-même est un commun, mais en danger. Donc comment, en fait, c'est une dynamique. Quelle est la dynamique permanente qu'on va pouvoir mettre en œuvre?
On prend la dernière.
Merci beaucoup. C'était pour rebondir sur ce qu'avait dit le monsieur. Il disait que les plus petits ne renverseraient jamais les plus grands. Pour ça, il faudrait déjà en fait arrêter complètement de fantasmer et de rentrer dans le concret et dans le réel. Parce qu'on a tendance en fait à fantasmer sur les grands. Ils ont plus d'argent, ils sont plus séducteurs, ils sont plus beaux. Ils ont l'argent pour ça. Davantage fait d'études, ce qui est normal, papa et maman géraient derrière. Donc voilà, à partir du moment où il y a deux poids, deux mesures, le pot de terre contre le pot de fer, on ne peut aimer que le pot de terre. C'est-à-dire que si on veut faire changer les choses, il faut en fait avoir en fait un regard nouveau sur le pot de terre et pas sur le pot de fer. C'est pas eux qui viendront nous chercher, parce que quand on regarde dans la rue les gens qui passent devant les SDF, pour eux, on est un peu la même chose, concrètement et réalistement. Donc, pour faire changer les choses, il faut déjà changer d'attitude et changer de regard. Mais ça se fera sur le long terme. À force de se prendre des claques et de découvrir des réalités concrètes où on en prend plein la tronche, ça réveille. Donc moi, ma question concrète, c'était quelle a été votre plus belle victoire au niveau de vos actions. Voilà.
Merci.
Ah, ça, c'est bien la dernière question. Ça s'appelle la question piège. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai construit, j'étais bibliothécaire avant, j'ai construit un commun qui s'appelait une liste de diffusion, qui s'appelait BiblioFR, qui visait, on a commencé, on était 28, on a terminé en 2009, on était 17 000 bibliothécaires, documentalistes, etc., qui visait à faire en sorte que ces professions, qui sont des professions de transmission du savoir, quand Internet allait monter, on a commencé en 93, vous voyez, c'était pas récent sous le soleil, et quand Internet allait monter, que ces professions-là puissent s'en servir pour continuer leur métier qui est de diffuser le savoir. Voilà, je pense qu'on a pas mal réussi. Voilà, c'est... Après, j'ai tendance à dire, regardons ce qui marche, regardons l'espoir qui se crée quand les gens font des choses ensemble. C'est bien plus fort politiquement. Ça ne veut pas dire non plus être aveugle sur les puissants, sur la destruction qu'ils mettent en œuvre, sur le fait que, comme le disait la personne tout à l'heure, ils font maintenant de la destruction, mais ça durera toujours après. Hein, donc tout ça, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, mais le meilleur moyen de les combattre, c'est de partir de l'espoir, des choses qui vont développer une confiance du peuple en nous. Ils sont riches, mais ils sont peu nombreux. Nous, on est très nombreux, et donc avec notre intelligence collective, on est plus fort qu'eux, à condition que cela soit mis en route, mis en mobilisation. Et là, je dirais, pas forcément en mobilisation uniforme, tous ensemble, le même jour, avec le même objectif. De temps en temps, il faut, hein, d'accord. Mais aussi, c'est avec des tas d'actions en commun, faites par les gens, qui s'auto-organisent, qui apprennent entre eux à qu'une autre société, qu'un autre monde est possible. Et une fois qu'on a appris qu'un autre monde est possible, on a envie de le réaliser. Merci.
Merci beaucoup. Merci.